avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on se pose et on regarde le continent africain, son avenir, avec vous, les voisins et les voisines, et avec un regard optimiste, mais sans complaisance. Bonjour, Khaled Higué.
Bonjour.
Vous avez 36 ans, vous publiez « L'heure de l'Afrique » aux éditions Hermann. Vous ne faites même plus vraiment partie des jeunes, au regard des statistiques, puisque près de 62% des habitants ont moins de 25 ans. Mais vos 36 petites années d'existence condensent à elles seules un vrai changement de génération, un changement de regard. Vous êtes béninois, Khaled Higué, un pays qui ne fait jamais parler de lui au chapitre des migrants. Il faut dire que c'est un petit pays.
Oui, c'est un petit pays de 11 millions d'habitants.
Vous êtes parti étudier en France, vous êtes parti, revenu un pied sur le continent, un pied dans l'ailleurs de la banque d'affaires. Vous avez fondé le groupe de réflexion Club 2030 Afrique et vous portez un regard lucide sur les diasporas, sur les talents incroyables du continent, mais aussi sur ses paradoxes et ses complexes. Croissance économique sans emploi, gouvernance sans vision, jeunesse inaudible et pourtant une réalité pour le reste du monde dans les 25-30... dans les 25-30 prochaines années, soit un jeune issu du monde occidental épousera un Africain.
Exactement.
Hein, ça fait partie du scénario. Soit il aura comme patron un Africain.
C'est ça.
Soit il aura comme client un Africain.
Exactement.
Soit il aura pour partenaire d'affaires un Africain.
Une personne sur trois sera Africain.
Voilà pourquoi l'avenir du continent concerne une grosse partie de la planète. C'est pas de moment de zapper l'émission, les voisins et les voisines. On va donner aussi la parole... dans cette émission à Yacouba Yaro, directeur du Centre d'études de recherche et de formation pour le développement économique et social, le CERFODES. Il est au Burkina Faso. Et puis on entendra aussi un entrepreneur, spécialiste de marketing digital, Christian Gekinou, qui apportera sa contribution sur le monde en ébullition des start-up africaines. Et quant à vous, les voisins et les voisines, c'est quoi pour vous l'Afrique de demain? Quel développement durable? Appelez-nous surtout dès maintenant au 33 1 84 22 71. 71, c'est aussi le WhatsApp pour nous téléphoner gratuitement. Je vous lis quelques messages, Khaled Higué, que vous pouvez bien sûr commenter, qui ont été postés sur nos réseaux sociaux. Il y a Miguel à Brazzaville, il nous dit l'Afrique de demain, il y aura des buildings, des voitures volantes, des robots pour nous servir, comme dans Black Panther. Et puis il y a Brahima, qui est à Caille, au Mali. Alors lui, c'est « Le continent africain n'a pas d'avenir, nous sommes mal formés, l'économie africaine est fragilisée, on a une urbanisation galopante. »
Oh, c'est plutôt pessimiste.
Alors entre les deux, vous choisissez quoi ?
Optimiste et réaliste. Je choisis plutôt le premier déjà.
Anaclet et N'Djamena, au Tchad, vous continuez à penser que l'Afrique est un ensemble homogène. Ce n'est évidemment pas le cas. Les réalités de l'Afrique ne peuvent être analysées que sous un seul angle. Ce n'est pas vrai. Moi, je répondrais, si je puis me permettre, que quand même, vous êtes les seuls, vous, Africains, à porter un destin commun quand on prend quelqu'un de la diaspora africaine. Si on compare à quelqu'un d'une diaspora asiatique ou sud-américaine, personne ne dit « je rentre en Asie, je rentre en Amérique du Sud » et j'en dis « je rentre dans mon pays ». Vous ne parlez pas de cette façon-là, Khaled Higué.
Oui, pour une simple raison, c'est que l'Afrique a une histoire assez particulière depuis la période de l'esclavage, la colonisation et toute la période de transition comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc on ne peut pas comparer l'histoire de l'Afrique à l'histoire des autres continents. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas parler de l'Afrique en ces termes-là.
Alors, même si, bien sûr, il y a une immense différence entre peut-être le Niger et le Nigeria, vous avez bien un destin commun.
Bien sûr, totalement. Et ça remonte au combat de nos pères, d'ailleurs, pour l'Union africaine. Et ça, on va l'expliquer tout au long de cette émission.
Mohamed est à Maïdigouri, au Nigeria. Comment l'Afrique de demain peut-elle être prospère tant que nous hériterons de la pollution des industries occidentales? Franco N'Djamena, au Tchad, pour que l'Afrique puisse se développer et avoir un avenir, il faut qu'il y ait une vraie indépendance. L'indépendance actuelle n'est qu'une image. Politiquement, les Africains sont toujours asservis. Vous en parlez dans le livre, mais avec un certain recul.
Oui, j'en parle avec certain recul parce qu'une chose est d'identifier les blocages inhérents au développement du continent, mais une autre est de situer les responsabilités. Et quand on situe les responsabilités, il faut regarder chez soi et chez les autres. Il faut analyser sur les deux regards. Donc je pense que, ok, d'accord, il y a peut-être des industries qui nous polluent et qui viennent d'ailleurs, mais il faut qu'on se pose aussi la question sur les industries que nous créons qui polluent aussi. Et notre rapport par rapport à l'économie et comment nous voulons développer le continent. Je ne suis pas pour à chaque fois incriminer les autres. Je suis pour situer les responsabilités des deux côtés.
Bourgeois est à Pala au Tchad. Il nous dit qu'il faut conscientiser la nouvelle génération, leur enseigner le droit, la démocratie, le savoir-faire, l'entrepreneuriat et surtout, surtout, nous dit Bourgeois, la fierté d'être africain. Beaucoup de nos jeunes croient que le paradis c'est en Occident, que leurs pays sont juste l'enfer sur Terre. Je ne le condamne pas, mais il faut inculquer à ces jeunes qu'ils peuvent bien vivre dans cette Afrique comme en Europe. Mais pour cela, il faut se mettre au travail et surtout aimer son pays, avoir l'envie de le voir comme les autres pays développés.
Et c'est ça qui me dérange en fait, comme les autres pays développés. Je pense que l'avenir de l'Afrique sera défini par les Africains eux-mêmes. Et puis, ça aussi, c'est une faute des élites, de donner l'impression que l'herbe est toujours verte ailleurs. Je pense que le continent a tout ce qu'il faut pour se développer. Le continent a tout à nous offrir. Et c'est surtout la question de l'espoir. Parce que quand on parle des personnes qui quittent leur continent ou leur pays pour aller ailleurs, c'est parce que quelque part, les gens ont perdu l'espoir. Et c'est comment on fait revivre cet espoir-là.
Un message d'un voisin aussi posté sur WhatsApp au 33 1 84 22 71 71.
Bonjour, je suis Cher Ndiaye, je vous écris de Dakar. L'Afrique de demain, pour moi, c'est l'Afrique unie, solidaire et travaille, surtout le travail. L'Afrique ne travaille pas et pour constater cela, rendez-vous dans les services administratifs. Vous verrez des gens qui viennent en retard et qui rentrent tôt. Un dossier qui attend juste une signature pour faire deux, voire une semaine. Et ce qui naturellement impacte sur les performances administratives. Aussi, il faut que nous ayons des dirigeants qui mettront en avant l'intérêt des populations et satisferont les besoins primaires tels que la santé, la sécurité, l'éducation et l'emploi des jeunes. Pour moi, c'est ce qui peut faire le développement durable de l'Afrique de demain.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Alors, Khaled Higué, qu'est-ce que vous en pensez de cette administration sur le continent africain, vous qui êtes issu du secteur privé?
Moi, je vais réagir tout de suite parce que cette question de l'administration, elle n'est pas que inhérente au continent africain. Dans d'autres pays, même dans les pays occidentaux, vous pouvez avoir une lenteur administrative qui n'est pas justifiée. Alors, il pointe quand même du doigt quelque chose qui est assez important, qui est l'engagement des dirigeants africains à créer un écosystème qui soit favorable au développement du continent au niveau de la santé, de l'éducation. Et ça, c'est quelque chose que nous vivons beaucoup dans beaucoup de nos pays. Il faut vraiment une prise de conscience pour que les Africains eux-mêmes puissent vivre leur continent ou que dans les pays africains, les Africains puissent se sentir bien. Il faut que aussi tout le monde soit impliqué dans le développement. Le développement ne peut pas être juste la question des hommes politiques, la société civile, les entrepreneurs. Vous dites que je travaille dans une entreprise, mais je sais l'implication de l'entreprise dans la formation. Donc, il faut que chaque partie prenante du développement prenne sa part de responsabilité. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour dire arrêtons de stigmatiser une seule partie. Mettons-nous ensemble, réfléchissons ensemble et construisons ce qui est optimiste pour les populations. Et c'est de ça qu'il s'agit actuellement.
Nous donnons la parole à une voisine qui nous appelle du Tchad, N'Djamena, au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Gladys.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins.
Gladys, vous souhaitez participer au débat en tant que voisine, on est bien d'accord, hein?
Oui, oui.
On vous écoute.
Pour moi, je dis que le développement de l'Afrique ne peut pas passer sans les femmes. Et j'insiste surtout sur le côté femme parce que la femme est le centre du développement. Et quand je prends un exemple dans mon pays, pendant les campagnes électorales, on met toujours la femme au centre des campagnes. On fait des projets, on monte des grands projets autour de la femme. Mais après, sur le terrain, ce qu'on constate, c'est autre chose. Et ça, c'est pas étonnant que nous revenons toujours à la case de départ. C'est-à-dire on a l'impression que tout patine parce que le terme Marasa qui veut dire une femme simple. Quand une femme est, par exemple, dans un bureau et que quelqu'un vient, un homme, il vient, il se présente. Quand la femme veut parler, il dit « Ah, tu es une marasa qui tu te tais, je veux parler à un homme, par exemple. » Et pourtant, généralement, la femme est aussi compétente, ou je dirais même plus que cet homme-là qui va chercher à avoir comme interlocuteur.
Alors, en somme, une humiliation et un gaspillage pour le continent, pour vous, Gladys.
Oui, et tant qu'on ne va pas enlever cette mentalité de notre tête, moi je pense qu'on serait toujours en train de patiner dans l'avancement, dans le développement.
Khaled Higué, on pourrait dire aussi la même chose concernant les promesses électorales pour la jeunesse. Il y en a beaucoup des promesses électorales pour la jeunesse.
Et d'ailleurs,
qui ne sont jamais respectées.
Oui, je vais remercier Gladys pour ce qu'elle vient de proposer et je l'aurais amené moi-même sur la place des formes dans nos sociétés. Et vous savez, les femmes et les jeunes ont toujours été les deux paramètres importants du développement qui ont souvent été ignorés ou mis de côté. Alors, les femmes produisent 80% des matières agricoles que nous consommons sur le continent aujourd'hui et elles n'ont même pas le droit d'hériter au niveau des sols quand vous prenez les droits coutumiers dans les pays. C'est un scandale. Je dis souvent, moi personnellement, en tant qu'homme vivant au 21e siècle, que je suis convaincu que les femmes vont prendre leur place dans les années à venir et que moi je veux contribuer justement à leur donner cette place-là. On ne peut plus, dans l'économie africaine aujourd'hui, mettre de côté 50% de la population. Ignorer les femmes, c'est de mettre de côté 50% de la population, c'est de mettre de côté la force de travail. Il faut que les femmes contribuent justement à ce développement autant que les hommes.
Gladys, vous avez quel âge sans indiscrétion ?
35 ans.
Est-ce que dans votre famille, il y a des femmes qui possèdent de la terre ou un bien ?
Je ne me rappelle pas. Peut-être des terres, du genre des terrains achetés pour la construction, oui, mais pour tout ce qui est travaux champêtres, je ne pense pas.
Merci à vous, Gladys, de nous avoir appelés. Vous continuez de nous téléphoner. L'heure de l'Afrique, c'est le livre de Khaled Higué. Et évidemment, vous lancez beaucoup de questions primordiales aujourd'hui pour l'avenir du continent. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 pour réagir. Khaled Higué, banquier, un pied dans la diaspora. Est-ce que finalement, vous n'apparaissez pas aussi quand même un peu disqualifié ou du moins différent de ceux qui subissent les maux de l'Afrique, c'est-à-dire la majorité de la population, par rapport à vous ?
Alors, j'ai envie de répondre tout de suite, je ne suis pas né banquier. Je suis devenu par la force des choses et par la force du travail. Je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin jusqu'à l'âge de 18 ans avant de venir faire mes études en France. Donc, c'est un parcours qui est un parcours de mérite. Et heureusement d'ailleurs, heureusement qu'il n'y a pas de reproduction sociale, parce que si on est agriculteur et qu'on est confiné à devenir agriculteur dans sa vie, ça serait dommage justement que la vie puisse nous donner des chances, la chance de réussir.
Et des choix.
Et des choix aussi, surtout. Non, justement, ça me donne la possibilité, moi qui suis né au Bénin, qui ai grandi au Bénin, qui fais ce métier aujourd'hui, de voir que tous les parcours sont possibles et de faire aussi, de donner aussi en retour. Et c'est ça l'objet de ce livre, de dire on peut partir d'un point donné et arriver à un autre, tout en construisant et tout en réfléchissant. Et de cette expérience-là, aujourd'hui, je peux non seulement accompagner aussi la génération qui est après moi, certes j'ai 36 ans, mais il y a une génération qui est jeune qui est après moi, je peux l'inspirer, je peux l'accompagner justement à faire les bons choix. Et c'est ça ce qui est important aussi dans l'explication de ce que nous faisons sur l'Afrique, dans ce plaidoyer.
Parce que vous dites dans votre livre, Khaled Higué, vous, votre génération, vous parlez au « nous », nous ne sommes pas rentrés parce que l'Afrique ne semblait pas prête à nous recevoir, sous-entendu pas de job à la hauteur de vos qualifications hein, quand même, et les salaires qui vont avec. Nous ne sommes pas rentrés parce que nous avons ignoré que notre mission que notre génération avait une mission à accomplir. Est-ce que vos petits frères, vos petites sœurs qui ont 20 ans, c'est-à-dire 15 ans de moins que vous maintenant, n'ont pas une idée plus précise de leur mission aujourd'hui sur le continent ?
J'en doute très fort. J'en doute très fort parce que nous n'avons pas encore une idée très précise de notre mission. Parce que si nous avions une idée très précise de notre mission, nous serons déjà tous sur le continent ou nous serons en train tous de travailler et de porter le continent. Je pense que chaque génération a vraiment sa mission. Nous avons l'habitude de dire que la mission de la génération de nos parents n'a pas été tenue parce que nous les taxons de tous les maux, de népotisme, de corruption et de tous ces maux-là. Mais je ne suis pas convaincu que nous ayons trouvé la nôtre. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on passe de diaspora africaine par exemple, elle n'existe que dans notre imaginaire. Cette diaspora n'existe pas. Il faut la construire. Et pour construire une diaspora, ça prend du temps. Et quand vous parlez de mes petits frères aujourd'hui, ou de mes petites sœurs qui ont la vingtaine d'années, qui se posent beaucoup de questions et qui veulent s'inspirer de ma génération, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ceux-là ? Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui pour le continent ?
Alors sur les diasporas, vous êtes quand même rudement sévère. Vous écrivez, le must pour les membres de la diaspora, c'est de décrocher un jumelage entre leur ville, donc s'ils habitent en France par exemple, ou leur village, et leur commune de résidence en France. Le fils du pays qui réussit cette prouesse, qui arrive à faire descendre des blancs dans son village pour une mission d'observation, puis pour une action charitable quelconque, ce fils sera fêté comme un héros.
Exactement. Et je suis très content qu'on soit en train de dépasser ce moment-là. Et moi, c'est une observation que j'ai faite personnellement dans plusieurs pays, où quand dans un village, on fait un jumelage, où on ramène des blancs, comme je le dis, alors là, tout ça est fêté parce qu'on a construit une bibliothèque, parce qu'on a construit un puits. Et je suis très heureux qu'on soit en train de dépasser ça. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de co-construire. Mais c'est de co-construire sur des points d'économie, c'est de co-construire sur vraiment le développement concret. Et le développement concret passe par quoi ? La création d'emplois, ouais. L'entrepreneuriat, l'entreprise.
Alors quand même, ça sent le vécu. Vous dites, on crée une petite affaire de transport, de personnes ou de biens. On installe des appareils de mécanique ou de menuiserie. On confie la gestion à un parent peu outillé pour cette mission. Les résultats sont souvent catastrophiques. Et dans toutes les agoras de migrants, chacun a son histoire où il raconte à qui veut l'entendre comment il s'est fait truander par son frère, même père, même mère, et qu'il en paye encore le crédit contracté auprès de sa banque.
Exactement, parler un peu avec les diasporas, parler un peu avec les migrants dans les pays européens, ça sent du vécu aussi.
C'est du vécu,
clairement.
Mais parler aussi avec les diasporas, elles vous diront mais à quel point elles vivent une pression continuelle de la communauté d'origine.
Bien sûr, complètement. Et je plaide vraiment, et je le dis ici et à tous les Africains qui m'entendent, nous avons dépassé la période où l'on se contente juste d'aider. Ponctuellement. Moi, je préfère apprendre aux gens à pêcher que de leur donner du poisson. On est rentré dans la phase où il faut investir. Il faut changer la manière de coopérer avec les gens qui sont restés sur le continent. Et c'est vrai, quand je dis qu'on mène une petite affaire et qu'on a l'impression parfois de se faire truander, c'est parce qu'au bout de quelques années, cette affaire ne marche plus et que les gens s'en plaignent, en fait. Donc, il faut trouver une autre manière de travailler.
Alors, évidemment, il y a quand même un sujet primordial. Il y a beaucoup de sujets primordiaux pour l'avenir du continent
exactement.
Africain, mais l'éducation, bien sûr. Pas mal de nos auditeurs ont réagi là-dessus. Mamadou, qui est à Kaolack, au Sénégal, nous dit « Sans éducation, pas de développement. Il faut nous frayer notre propre chemin
exactement.
Et arrêter de copier les modèles des autres pays parce que les réalités ne sont pas les mêmes. » Fatou, qui est étudiante, elle a 21 ans, elle est à Bangui, en République centrafricaine. Elle nous dit « La scolarisation des filles, c'est la chose la plus importante pour moi, pour le développement de l'Afrique. Les filles luttent pour leur éducation. On leur dit que leur avenir est à la cuisine, pas au bureau. » On les décourage, on ne leur laisse pas l'opportunité d'étudier jusqu'au bout. La tradition, c'est ce qui empêche la scolarisation des filles. Moi, nous dit Fatou, j'ai lutté avec mes parents pour faire des études. Ça rejoint un peu ce que nous disait Gladys.
Exactement.
Une fois arrivée au bureau aussi,
exactement.
Où c'est l'homme qui parle.
Exactement. Et j'explique dans le livre, vous voyez le pourcentage de l'éducation des filles entre le primaire, le secondaire et l'université, ça chute drastiquement. Vous partez de 80-90% parce que c'est gratuit à l'école primaire. À l'école secondaire, déjà, vous êtes à 50% et à l'université, vous êtes à moins de 10%.
Et en RDC, au Mali, en Éthiopie, une fille va deux fois moins longtemps à l'école que son frère.
Exactement.
Alors, là où vous n'apportez pas de réponse, c'est comment on va financer la croissance des effectifs scolaires. Il faut au moins 4 milliards de dollars par an pour payer, ne serait-ce que les salaires des enseignants supplémentaires.
Exactement.
Par rapport aux nouveaux élèves qui arrivent.
Alors, c'est un travail de longue haleine. Je ne dis pas que
mais
ce travail...
Mais on n'a pas le temps.
On n'a pas le temps, mais en même temps, on a le temps de construire. Et tout est question de méthode. Aujourd'hui, regardez dans plusieurs pays africains, quel est le budget qu'on consacre à l'éducation. Moi, je suis qu'on peut faire mieux. Si on consacre plus le budget à l'éducation, mais qu'on définit l'éducation telle qu'on en a besoin dans nos pays, et ça, vous avez dit ça tout à l'heure, un des auditeurs en parlait, est-ce que l'éducation telle qu'on a aujourd'hui est adaptée à notre population? Et j'en parle longuement dans le livre. Et je propose même, vous parliez de que c'était iconoclaste tout à l'heure, je dis, mais regardons les zones rurales. 70% de nos populations sont dans les zones rurales. Est-ce que le système tel qu'il est aujourd'hui, de l'école primaire à l'université, est adapté? Nous avons besoin d'agriculteurs qui sachent faire. Nous avons besoin d'éleveurs. Nous avons besoin de plombiers. Nous avons besoin d'électriciens. Est-ce qu'on n'a pas d'autres manières d'éduquer notre population? On n'a pas d'autres manières de former la population pour qu'elle soit apte à justement créer ses propres emplois et à créer son écosystème de travail? Et moi, je remets tout ça en cause, en fait. Je voudrais qu'on en discute parce que je suis convaincu que le système qu'on utilise aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, n'est pas forcément optimal.
Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut, ou 30 ans qu'on dit qu'il faut plus de formation professionnelle sur le continent africain, sauf que ça coûte cher et que personne n'a décidé d'investir là-dedans.
Non, c'est parce qu'on a beaucoup perdu dans les années 90 avec les ajustements structurels. Moi, je prends mon pays qui est le Bénin. Quand moi, j'étais petit, je me rappelle, on avait un lycée qui s'appelait le lycée technique. C'était l'un des meilleurs lycées du Bénin. Avec les années, ce lycée a perdu de sa valeur. On préfère aller dans un parcours classique, avoir un bac scientifique, avoir un bac littéraire, que d'aller au lycée scientifique. Pourquoi ? Parce que quand on fait le lycée scientifique, après on a l'impression que le travail qu'on a n'est pas assez valorisé. Il faut revaloriser le travail de la main, le travail de l'artisan.
Donc toujours le problème du copier-coller ?
Toujours le problème du copier-coller. Parce qu'en col blanc, avec une cravate, ça passe beaucoup mieux que sur un chantier.
On va donner la parole à un auditeur. Est-ce qu'on a... Non, on a Yacouba Yaro qui est au téléphone avec nous. Yacouba Yaro qui nous appelle, que nous appelons, qui est directeur du Centre d'études de recherche et de formation pour le développement économique et social. C'est le CERFODES au Burkina Faso. Bonjour Yacouba Yaro.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes à Bobo-Dioulasso. Votre centre d'études, le CERFODES, travaille beaucoup justement sur les questions d'éducation. Vous avez entendu Khaled Higué dire finalement faire des propositions beaucoup plus sur une formation à l'habileté des Africains, notamment manuelle, technique. Comment vous voyez cette proposition, vous qui êtes au Burkina Faso ?
Je pense que votre invité il est parfaitement dans l'axe de la réforme de l'éducation dans nos pays, parce que on se pose la question, est-ce que de nos jours l'école qui existe dans nos pays, est-ce que cette école apporte vraiment les solutions ? Il a si bien dit, on a besoin par exemple de travailler dans le domaine manuel, dans l'artisanat des métiers, mais souvent ça manque. Vous prenez le cas de mon pays. Vous cherchez par exemple un plombier, souvent vous vous rendez compte que ce sont des gens qui ont eu la formation sur le tas, et pourtant il y a énormément de boulot.
Ah, Yacouba Yaro, oui, on vous avait perdu, oui, nous vous écoutons.
Vous m'entendez ?
Oui, oui.
Donc je disais que votre invité a totalement raison, il faut revoir le format de nos écoles actuelles. Nos écoles actuelles ne sont pas adaptées. Il y a une demande forte dans certains domaines, mais il manque des gens qui sont formés. Je disais que lorsqu'on prend des métiers d'artisans comme la plomberie, on se rend compte qu'il y a énormément de besoins dans ce domaine. Mais il y a très peu de gens qui ont été formés. Souvent, ce sont des gens qui sont formés dans le tas. Et comme il le dit, nous avons besoin, par exemple, d'agriculteurs bien formés, pas des agriculteurs qui se regardent seulement le vent et qui savent, par exemple, qu'à tel moment, il va pleuvoir, mais des agriculteurs qui savent qu'est-ce qu'il faut utiliser, comment il faut l'utiliser et comment il faut accroître la productivité. Nous avons besoin, par exemple, des gens qui sont compétents dans la construction. Regardez par exemple dans mon pays, un premier ministre disait il y a quelques années que ce n'est pas les moyens qui manquent, mais c'est la formation, c'est la qualification de nos maçons, de nos hommes qui sont en charge de construction. Vous arrivez souvent sur des chantiers, vous vous rendez compte que ces édifices ne sont pas du tout solides parce que simplement elles n'ont pas été formées. Pourtant, on continue de former des gens de manière générale, à leur donner du savoir, sans leur donner des connaissances pour la pratique. Et ça, c'est vraiment un vrai problème. Et oui, je pense que si nous arrivons, vous m'entendez ?
Oui, oui, on vous entend bien.
Si nous arrivons à reformer nos écoles, à intégrer vraiment des aspects pratiques, comme par exemple certains pays comme le Ghana. Vous allez au Ghana, vous vous rendez compte que même par exemple pour tout ce qui concerne la coiffure, les jeunes filles sont bien formées dans ce domaine. Ce n'est pas parce qu'on a échoué à l'école qu'on voit dans certains métiers comme on le voit dans nos pays. Vous allez par exemple dans ces pays-là, vous vous rendez compte que tout ce qu'il y a comme spécificité ou spécialité, il y a des gens qui sont formés. Moi je prends le cas de mon pays, au niveau des mécaniciens ou des garagistes. Vous allez dans un garage, le même garagiste va vous dire qu'il est électricien, il s'occupe du moteur, il s'occupe de ceci ou cela. Ce n'est pas le cas au Ghana. Il y a dans un petit garage, quelle que soit la taille, il y a toujours quelqu'un qui s'occupe par exemple de l'électricité, quelqu'un d'autre qui s'occupe du moteur, et ça n'existe pas. Donc formons des jeunes, et nous allons même trouver la solution à la question de l'employabilité des jeunes aujourd'hui.
Oui, mais en même temps, les jeunes multicartes, ça s'appelle quand même aussi une forme de résilience, d'adaptation à une situation parfois chaotique. Vous êtes au Burkina Faso, Yacouba Yaro. L'école est un des secteurs les plus impactés par le conflit au Sahel, avec les déplacements de population, des menaces aussi qui pèsent directement sur les enseignants, des écoles fermées. Comment aujourd'hui, on peut repenser un modèle à partir de cette problématique urgente ?
Oui, ça c'est aussi un autre défi auquel mon pays fait face, pas seulement mon pays, mais le Mali, le Niger, tous ces pays qui sont affectés par l'extrémisme violent se retrouvent avec des écoles, des milliers d'écoles qui sont fermées, et c'est des centaines de milliers d'enfants qui sont en dehors de l'école, et je dirais aussi des dizaines de milliers d'enseignants qui ne peuvent plus offrir des formations aux élèves. Et donc quand je regarde cette situation, je dis pendant longtemps, on a encouragé nos parents, on a encouragé nos populations à inscrire les enfants sans prendre en compte la question de la sécurité. Aujourd'hui, au niveau de ce pays-là, l'école ne peut plus exister si la question, la problématique de la sécurité n'est pas prise en compte. Parce que dès qu'il y a un petit coup de feu, tout le monde fuit, tout le monde se dit « attention, il y a donc une situation d'insécurité ». Donc on s'en rend compte parce que quand vous allez par exemple dans des zones où il y a eu des attaques, vous vous rendez compte que même s'il n'y a pas eu de menace directement, les enfants ou les parents refusent d'envoyer les enfants à l'école parce qu'ils se disent que s'il y a eu des attaques tout autour, il est possible que ces personnes-là viennent un jour attaquer l'école. Donc du coup, on n'a plus confiance à l'école, on se dit « envoyer son enfant ». Dans des écoles qui ne sont pas sécurisées, on expose ces enfants donc à une situation de mort. Et donc, du coup, même les enseignants, vous prenez les enseignants, beaucoup d'enseignants refusent d'aller dans des zones comme les zones du Sahel. Et on se dit que si on va dans ces zones, on n'est pas sûr de pouvoir revenir. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ces enseignants s'il n'y a rien de motivant qui permettent à ces enseignants qui vont dans ces zones dangereuses, dans ces zones d'insécurité, de pouvoir quand même faire face à cette réalité et d'offrir le savoir aux enfants.
Mais alors, j'avoue justement, Yacouba Yarou, comment faire pour, là, dans les années à venir, voire dans l'immédiat, comment ne pas perdre une génération, d'avoir une génération perdue pour l'éducation ?
Puisqu'on parle de l'avenir du continent. Je suis désolé, mais je pense qu'il y a déjà des générations qu'on est en train de perdre. Parce qu'au rythme où on voit la fermeture des écoles, au rythme où on voit les parents se désolidariser du système scolaire actuel, je crois qu'on est dans une situation où on est en train de... Mais comment faire? Je pense qu'il faut, comme il a dit d'ailleurs votre invité, il faut surtout associer les populations à cette gestion de l'école. Autant on a associé ces populations en disant « vous devrez envoyer vos enfants à l'école », autant on devrait les associer à la gestion de l'école. Et je suis heureux pour mon pays parce que rien qu'hier seulement, la loi sur les volontaires a été donc adoptée par notre Assemblée. J'espère que ces volontaires ne seront pas là seulement pour la sécurisation de leur zone en termes militaires, mais également aussi prendre en compte la question des écoles. Ces volontaires doivent être les premiers agents pour pouvoir offrir la sécurité, étant donné qu'ils sont eux-mêmes membres des communautés et surtout aussi qu'ils sont aussi des parents d'élèves, il faut que de plus en plus, lorsqu'il y a une école, il faut songer à adjoindre la question de la sécurité.
Et qu'en effet, les communautés aussi, du coup, ce soit l'occasion pour qu'elles se réapproprient un projet scolaire, un projet d'éducation. Merci beaucoup, Yacouba Yarou, d'avoir été en ligne avec nous. Vous êtes directeur du Centre d'études de recherche et de formation pour le développement économique et social, le CERFODES, au Burkina Faso. Khaled Diguet, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça?
Je vais juste, j'ai On beaucoup apprécié le plaidoyer de cet intervenant. Je veux juste compléter avec une petite chose. Il faut savoir aussi que ce qui va donner envie aux jeunes Africains de faire les formations dont je parlais tout à l'heure et dont il parlait aussi, c'est la valorisation des métiers qu'ils vont faire derrière. Aujourd'hui, on est dans une phase où les gens savent créer leur propre entreprise. Un plombier sait créer son entreprise, un agriculteur sait créer son entreprise, un maçon sait créer son entreprise. Donc, on ne forme plus juste les gens au métier, mais aussi à comment créer leur métier par l'entrepreneuriat. Donc, faut former les gens, faut mettre l'entrepreneuriat dans le parcours.
Eh bien, vous faites bien de parler de l'agriculture. Justement, un auditeur nous appelle au 33 1 84 22 71 71. L'agriculture, un secteur mal aimé par la jeunesse africaine, mais peut-être que ça aussi, ça pourrait changer à l'avenir, dans un avenir proche sur le continent africain. Fouba est en ligne avec nous, 29 ans. Bonjour Fouba.
Bonjour, 7 milliards de voisins.
Fouba, vous êtes à Niamey. Alors, vous n'êtes pas un futur agriculteur. Hein. Si j'ai bien compris, vous êtes étudiant en droit notarial. Donc, c'est raté.
Oui, je suis étudiant en droit notarial, mais aussi agriculteur.
Ah.
Je pratique de l'agriculture.
Oui.
À côté des études.
Et pourquoi ça, donc deux choix, deux casquettes, deux destins?
Non, c'est que vous savez, en Afrique, c'est compliqué d'avoir du travail après l'école. Et pour moi, je pense que la chose qui peut faire sortir l'Afrique de la misère, de la pauvreté, il n'y a que l'agriculture. Et pour cela, j'ai mis en place une initiative pour faire de l'agriculture écologique. Justement, on est en train de parler de développement durable. C'est bien de faire de l'agriculture, c'est bien de vouloir se développer, mais un modèle de développement à l'occidental ou à la chinoise, je pense que là, c'est très suicidaire pour l'Afrique. Donc, j'ai mis en place une initiative qui s'appelle Oasis Bio du Sahel pour montrer l'exemple à tous mes camarades et à mes amis que l'agriculture peut faire rentrer un peu d'argent et aider à créer un peu plus de richesses, et qui va permettre à la famille, à l'étudiant ou à l'élève d'être moins dépendant de la famille.
Qu'est-ce que vous répondez aux investisseurs internationaux qui disent que l'agriculture écologique, c'est un luxe quand il y aura tant de bouches à nourrir avec une telle croissance démographique? Khaled Higué, vous êtes banquier vous-même, je pense que vous n'allez pas non plus me démentir. Et le projet d'une agriculture écologique durable, est-ce que ce n'est pas disproportionné finalement?
Non, ce raisonnement est valable en Europe, pas en Afrique, parce que l'agriculture écologique, contrairement à ce qu'on pense, elle est pratiquée en Afrique depuis des siècles. Et on continue. Et je suis très heureux d'avoir entendu l'auditeur, parce que pour moi, l'auditeur, c'est l'Africain de ma génération classique. En fait, on peut être notaire, être agriculteur, on peut être banquier.
Vous avez 7 ans de différence tous les deux.
Oui, mais on est de la même génération. Ouais. Donc moi, je peux être banquier, agriculteur, il peut être notaire et agriculteur. Parce que l'agriculture, c'est quelque chose de noble, en fait. Je vous dis, on ne peut plus vivre l'agriculture comme on le vivait il y a un siècle en Afrique. On peut être entrepreneur, agriculteur.
Ouais, enfin, il faut quand même à un moment donné accepter de manier la daba par 45 degrés.
Oui, il faut accepter de manier la daba, mais il faut aussi accepter de travailler avec des gens qui manient la daba. On peut être agriculteur, entrepreneur. On peut, comme mon ami qui est au téléphone l'a dit, on peut créer un écosystème, une coopérative avec des personnes qui savent le faire et prospérer ensemble. Et c'est ça la mission de ma génération, c'est de réussir par tous les moyens à investir les champs qui sont les champs porteurs du développement durable de l'Afrique.
Merci à vous, Fouba, d'avoir été en ligne avec nous. Très, très bonne journée à Niamey.
Merci, bonne journée à vous aussi, madame. Je voudrais ajouter que l'espoir pour l'Afrique, c'est le combat que va mener la jeunesse contre la corruption, pour la démocratie, mais surtout pour la création des emplois et de la richesse. Et l'agriculture est la solution. Les Africains, on doit croire en l'agriculture, on doit pratiquer de l'agriculture. Ça marche pour moi, donc ça marchera pour tout le monde.
Le message est passé, je crois, Fouba.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Justement, j'enchaîne avec un message d'Abdel, qui est un Béninois à Montréal et qui nous écoute. Voici le message qu'il a posté. La corruption ralentit l'Afrique et ça ne va pas s'arrêter. Il faut la même justice pour tout le monde. Les droits des citoyens doivent être respectés pour le bon développement de l'Afrique.
Moi, je suis très confiant et très optimiste parce que je pense que de toute l'histoire, la jeunesse a été toujours à l'œuvre du progrès social. On est dans une jeunesse qui demande des comptes au gouvernement. On est dans la nouvelle génération des technologies, des réseaux sociaux où on demande de la transparence. Donc cette corruption endémique, elle va de toute façon diminuer. On n'aura pas le choix, sinon vous aurez des révolutions dans tous les pays.
À la faveur de quoi d'ailleurs elle diminuerait finalement?
À la faveur
d'une exigence d'une nouvelle génération, de l'informatisation de tous les secteurs qui
de la
permet la traçabilité.
Exactement, c'est une combinaison d'actions, déjà d'une exigence d'une génération, d'une classe moyenne aussi qui est en train de naître, de la transparence et aussi de la redistribution de la richesse parce que les gens sont demandeurs et qu'on n'aura pas le choix de toute façon. Sinon, nos pays, ça sera la guerre civile dans les pays parce que la jeunesse qui est là, quand vous avez une population où l'âge médian est de 15 ans, vous n'avez pas d'autre choix parce que cette jeunesse va vous bousculer de toute façon.
Oui, alors en même temps, vous êtes bien placé pour savoir, Khaled Higué, vous qui êtes banquier, que dès qu'un Africain gagne beaucoup d'argent, il s'empresse de le placer où? À l'extérieur du continent. Non, petit regard vers un appartement à 55 millions d'euros à Monaco de la famille Dos Santos. Alors finalement, qu'est-ce qui pourrait changer avec la nouvelle génération?
c'est l'amour du continent et la prise de conscience du potentiel du continent et qu'on n'aura pas de choix que de développer nos pays. Ça, c'est une fierté. Et ma génération a cette fierté. C'est parce que ma génération est éduquée en masse. Ma génération connaît l'histoire aujourd'hui du continent et cette génération, comme je le dis, se sent investie d'une mission. Donc ça, moi, je pense et je suis optimiste là-dessus. C'est quelque chose qui va changer. Ça ne voudrait pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des biens à l'étranger, mais déjà avoir des biens en Afrique et développer le continent africain.
Et donc investir des capitaux africains pour l'économie africaine ?
Investir des capitaux africains pour l'économie africaine, parce que c'est ça la condition sine qua non du développement durable et inclusif du continent. Si nous ne faisons pas confiance nous-mêmes à notre propre continent, les autres ne feront pas plus confiance que nous.
Vous travaillez dans une banque d'affaires, oui, où ce sont des capitaux internationaux qui s'investissent sur le continent africain.
Et les capitaux africains aussi. Nous cherchons les capitaux en Afrique et à l'international.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On est en ligne avec un voisin, Mambaye, qui a 28 ans, qui est à Saint-Louis du Sénégal. Bonjour Mambaye.
Bonjour Mamie.
Mambaye, vous êtes étudiant en master et aussi agriculteur.
Oui, oui, en quelque sorte.
Je suis très heureux.
Comment ça, en quelque sorte? C'est oui ou c'est non?
Bonjour tout le monde, je salue tous les voisins et les voisines.
Oui.
Bon, je passais juste pour vous faire connaître quelques connaissances au Sénégal.
Mm-hmm.
Bon, je vais saluer notre invité et l'encourager sur ce sommet. Juste tenais à vous faire comprendre que ce sont les jeunes qui veulent rester ici au pays natal, je veux dire. Mais ce sont les élites ou bien les gouvernements qui ne nous permettent pas de rester. Par exemple, ici au Sénégal, on a largement de terre pour cultiver, de faire l'élevage et aussi entreprendre quelque chose. Mais ce sont les gouvernements qui vont donner ces terres aux Occidentaux, aux multinationales et quelque chose comme ça.
Et qui fait que vous avez le sentiment que vous n'avez pas de débouché possible, c'est ça ?
Sur tout ça.
Merci de nous avoir appelé, Mambaye. D'ailleurs, Khaled Higué, vous soulignez un moment à propos des migrants que, alors votre pays est un petit pays, hein, 11 millions
d'habitants.
Le par Bénin. Rapport au Sénégal qui est plutôt autour de 17 millions. Mais
ça.
Vous dites, comment se fait-il qu'on ne voit pas beaucoup, enfin on n'en voit pas des Béninois, des Togolais sur la route des migrations, on voit des Sénégalais, on voit des Ivoiriens. Alors on pourrait vous répondre, bah oui mais ils sont moins nombreux aussi, les Béninois, les Togolais aux alentours de 9 millions, me semble-t-il.
8, 9 millions.
Mais effectivement, comment, c'est vrai que ça soulève une question ça.
Oui, mais c'est une remarque que j'ai faite. En faisant une étude, en faisant de la recherche, j'ai remarqué qu'il y avait très peu de Togolais, de Béninois qu'on retrouvait sur la route de l'immigration qui prenaient ce risque-là. Alors, je l'ai compris un peu après, et j'en parle rapidement dans le livre. C'est que l'élite entretient quelque chose d'assez flou que l'Eldorado en Occident. Et c'est cette l'élite qui entretient ça, qui amène dans certains pays, au-delà du fait économique, a donné l'impression à ceux qui sont dans nos pays que s'ils ne faisaient pas le voyage, ce pèlerinage en Europe, alors ils n'ont pas réussi.
Tenter l'aventure.
Et c'est vrai qu'on le sent beaucoup plus dans d'autres pays, dans certains que dans d'autres.
Donc il y a quelque chose aussi de culturel quelque part.
Je ne vais pas l'appeler culturel.
Imaginaire collectif.
Je ne vais pas dire culturel, imaginaire collectif, de donner l'impression qu'un pèlerinage en Europe était un passage important pour réussir dans sa vie.
Je vous propose d'écouter maintenant Khaled Higué, un entrepreneur spécialiste de marketing digital. Ça va nous donner l'occasion justement de parler de l'entrepreneuriat, de la croissance, cette croissance africaine qui ne crée pas d'emplois. Ça aussi, c'est quand même une vraie question. Christian Gekinou est né au Bénin comme vous. Il a créé Afrikinov, un programme de soutien au développement de l'entrepreneuriat innovant en Afrique. Et il a raconté son parcours et sa vision du continent à Raphaël Constant. Et pendant ce temps, bien sûr, vous pouvez aussi nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
Très tôt, je pense quand j'étais déjà en première ou en terminale, je rédigeais des business plans sans avoir reçu une formation, mais je voyais des possibilités d'entreprendre. Moi, j'ai toujours su que j'allais travailler dans le domaine de l'entrepreneuriat en tant qu'entrepreneur. Et très vite, donc je crois en moins d'un an, j'ai créé une première entreprise en sourcing. On avait des clients en Afrique de l'Ouest. Et on s'occupait d'aller chercher pour eux des produits auprès de fournisseurs, principalement en Asie. Ensuite, j'ai monté une autre entreprise, plutôt un cabinet de conseil en communication et en marketing. Et depuis quelques années maintenant, je dirige un programme qui s'appelle Afrikinnove et qui s'occupe de renforcer les capacités des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant dans différents pays en Afrique.
Ce que vous dites, c'est que finalement, le vrai défi aujourd'hui, c'est de professionnaliser les startups en Afrique. Et c'est ce que vous proposez avec Afrikinnove.
Oui, je dirais de professionnaliser l'accompagnement des startups. De plus en plus, depuis quelques temps, 7-8 ans, dans beaucoup de pays en Afrique, les structures d'accompagnement du type incubateur, des accélérateurs ont commencé à apparaître, Fab Lab, enfin tout type de structures. Ce sont des acteurs qui font un travail merveilleux dans les environnements dans lesquels ils sont. Parce que ce que moi je n'ai pas eu quand j'ai démarré, c'est des choses qu'ils proposent justement dans leur écosystème. Et donc moi je me rappelle si j'avais cette opportunité-là d'être quelque part où j'avais une connexion Internet, où j'étais au milieu d'autres jeunes qui étaient aussi dans une démarche de création d'un produit, d'un service, dans cette démarche entrepreneuriale. Enfin, tout ce que je pouvais apprendre, je pense que je serais allé beaucoup plus vite. Je pense que c'est des acteurs qui sont indispensables pour permettre le développement économique réel de nos écosystèmes en Afrique. Donc ils contribuent véritablement parce qu'ils forment en griffe des entrepreneurs. Ils essayent aussi de réduire le plus possible les risques d'échec. Et donc, ces acteurs sont indispensables, mais ce sont des acteurs qui sont très peu connus et reconnus dans leurs écosystèmes.
Et pourquoi pour vous, personnellement, c'est important d'accompagner cet entrepreneuriat en Afrique ?
Parce qu'on parle beaucoup des startups, de l'innovation en Afrique. C'est vrai qu'il y a une dynamique qui est claire, mais quand on creuse un peu, on se rend compte que les défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs, il faut avoir une motivation extraordinaire pour y arriver. Pour moi, il est important de dépasser l'effet de mode. Parce que justement, comme il y a une dynamique qui s'observe, ça attire les regards. Et malheureusement, cette surmédiatisation ne rend pas service aux entrepreneurs africains. Parce que très rapidement, on se rend compte qu'on a des entrepreneurs qui sont dans une logique où la communication prime sur l'exécution. C'est-à-dire, un entrepreneur doit d'abord apporter une solution à une problématique de son environnement et rendre solvable cette démarche-là. Une Afrique qui fait face à ces défis, qui est consciente de son potentiel, je pense que ça c'est déterminant, et qui justement apporte les réponses adaptées en s'inspirant assez souvent des pratiques, hein, parce que ce n'est pas en nous contentant de recopier les solutions qui existent ailleurs dans nos écosystèmes que nous allons réellement développer de la valeur. Il faut être en capacité d'adapter ces solutions-là à nos contraintes. Et puis ensuite...
Vous pensez à quoi, par exemple ?
Quand je suis venu en France en 2012, on parlait beaucoup, enfin on en parle toujours, de Blablacar, de covoiturage. Et c'était présenté comme une révolution extraordinaire. Et je me suis dit, mais en quoi c'est une révolution ? Dans la plupart des capitales en Afrique, on ne fait que du covoiturage. Le phénomène des taxis interurbains, c'est du covoiturage en soi. On parle aussi beaucoup d'écologie aujourd'hui. Nos toilettes en Occident consomment beaucoup d'eau. Et c'est pas très écolo. Et les toilettes sèches en Afrique, les toilettes sèches, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Donc il y a énormément de possibilités comme ça que pour nous, on ne les perçoit même pas véritablement comme étant des innovations, mais qui, dans d'autres écosystèmes, retravaillés, mieux présentés, avec une offre de services plus adaptée, sont de véritables innovations et permettent véritablement d'avoir une croissance, de créer énormément d'emplois. Donc on a énormément de possibilités qu'on n'exploite pas suffisamment parce qu'on n'est pas toujours en capacité de « think out the box », tu vois, de réfléchir au-delà de ce que nous voyons au quotidien. Donc pour développer un pays, pour développer une économie, il faudrait des centaines, des milliers de jeunes entrepreneurs qui sont en capacité réellement d'apporter des solutions à des problématiques du quotidien. Et il faut les aider, il faut structurer tout ça pour demain avoir un tissu de TPE et de PME plus dynamique et qui va véritablement apporter de la valeur à nos économies.
Cette milliards de voisins, c'est maintenant.
Khaled Digué, vous publiez L'heure de l'Afrique. Comment vous réagissez à ce que dit Christian Géquinou, donc entrepreneur spécialiste de marketing digital? Est-ce qu'on a, ça y est, l'ébauche d'un tissu de PME innovante, en partie avec de l'innovation frugale d'ailleurs, une innovation adaptée aux conditions du continent, aux besoins du continent?
Tout d'abord, je le félicite pour ce qu'il a fait pour Afrique Innove et je viens confirmer ce qu'il dit. C'est-à-dire que les jeunes Africains ont vu que les gouvernements et les institutions avaient atteint leurs limites. Donc, ont décidé de créer eux-mêmes leurs emplois, donc pas l'entrepreneuriat. Et l'innovation frugale, moi, je trouve que c'est le système le plus efficace, et je parle des mangues bleues justement dans mon livre, pour créer en fait de l'emploi. Et si vous regardez bien, c'est d'observer tous les jours son écosystème et de trouver des solutions à moindre coût dans cet écosystème-là. La microfinance a été inventée comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on regarde les populations, on regarde les moyens des populations, on regarde ce qu'on peut faire avec. Et ça, c'est le plus important dans notre écosystème. Il parle de toilettes sèches, il parle de Blablacar, donc du covoiturage. Mais moi, depuis mon enfance, on fait du taxi ville, on fait de ce covoiturage. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec ma génération, et je le répète, je ne vais jamais arrêter d'insister, technologie, nouvelle génération, donc jeunesse, nous sommes capables, avec l'innovation frugale, de créer des innovations, de créer des opportunités et des poches d'emploi très importantes.
Vous parliez des mangues bleues en Ouganda. C'est un système de déshydrateur solaire de fruits pour exporter des fruits séchés pour ne pas les laisser pourrir à la saison de surproduction. Vous parlez aussi dans votre livre d'une cinquième révolution industrielle du tout mobile.
La révolution du tout mobile.
Oui, qui est particulièrement bien adaptée à l'Afrique.
Mais c'est la révolution du tout mobile. C'est depuis la naissance jusqu'au décès, en passant par l'économie, en passant par la banque, en passant par les assurances. Aujourd'hui, vous naissez dans un hôpital. On peut déclarer votre naissance par un téléphone. Au niveau du décès, on peut déclarer votre décès par un téléphone. Votre compte bancaire peut être sur un téléphone, vous achetez par le téléphone et vous avez votre assurance par le téléphone. Ça veut dire que l'Afrique est le continent qui peut innover et créer la cinquième révolution industrielle par le tout mobile. Et ça, c'est une poche d'économie incroyable. Et pour les gouvernements, attention, c'est une poche de fiscalité très, très importante aussi.
Alors justement, la fiscalité, on n'en avait pas encore parlé. Les institutions internationales, notamment le FMI, met la pression sur le continent africain en disant il faut que l'Afrique trouve le moyen de faire rentrer des recettes fiscales autres que la TVA.
Parce qu'en pratique, la fiscalité a vu, sur le continent aujourd'hui, on récupère à peu près 20% de recettes fiscales contre 60-70% dans les pays européens. C'est trop faible.
Mais qui veut payer des impôts sur le continent africain? Quand on lance le débat, personne.
Vous savez pourquoi?
Vu la faible qualité de services publics en retour.
Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont justement l'impression de ne rien recevoir en retour. Mais c'est pour ça qu'il faut créer, non seulement, revenons sur les questions de transparence, de corruption, ça on en a parlé tout à l'heure, mais créons des poches justement de fiscalité qui ne pèsent pas énormément sur le bilan des foyers. Et c'est pour ça que je propose justement cette révolution du tout mobile, où c'est toute une autre forme de fiscalité. C'est une fiscalité sur les transactions.
Oui, alors les fiscalités sur les transactions mobiles, on a vu le résultat au Bénin, ça a mal tourné quand même, hein, quand il y a eu des tentatives.
Ça, c'est une approche... Il y a un fait qui est une réalité, trouver des moyens, et il y a la méthodologie pour le faire, et l'approche. Et je pense que dans ce genre de choses, malheureusement, il faut un débat, parce qu'il y a un changement générationnel. Il faut aller expliquer justement à la jeunesse pourquoi on veut taxer les méga-hôtés. Et c'est à la jeunesse elle-même de proposer des solutions, en fait. Et si on organise ce débat, on inclut toutes les parties prenantes, parce que, attendez, il y a les entreprises d'un côté, il y a une jeunesse très forte qui utilise Internet, parce que ça leur permet de faire de l'entrepreneuriat. Si on n'instaure pas ce dialogue et qu'on le fait unilatéralement, ça donne ce genre de résultat. Moi, je suis pour le dialogue, surtout dans les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui.
Khaled Digué, alors optimiste vraiment pour le continent africain?
Optimiste et réaliste. Pourquoi? Je précise réaliste. Optimiste parce que nous avons tout le potentiel pour être le continent d'avenir. Nous avons la démographie, nous avons les ressources naturelles.
2,5 milliards en 2050.
En 2050, avec la moitié de la population qui a moins de 25 ans. Et à côté de ça, nous avons aujourd'hui une prise de conscience des Africains eux-mêmes du potentiel de leur continent. Donc, tout ça réuni, je pense qu'il y a de quoi être optimiste. Mais réaliste parce que nous avons de grands défis, la sécurité, le changement climatique.
Merci à vous d'être passé dans l'émission chez 7 milliards de voisins, Khaled Digué. L'heure de l'Afrique pour un développement durable et inclusif, c'est paru chez Herman. Merci Khaled.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Et merci à toute l'équipe, Sigrid Azerwal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. À demain.
Vous les avez entendus ou découverts.